Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant « Est-ce que Jésus-Christ est mort seulement par les Romains et les Juifs ?» Point d'interrogation. Ça vaut la peine d'étudier la chose très sérieusement. Nous arrivons à l'étude numéro 9. Et c'est la 36e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour créer un peuple zélé, motivé pour les bonnes œuvres. Il, Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est écrit dans Tite, au fin de votre Bible, chapitre 2, verset 14. Pas tout à la fin de votre Bible, mais contre la fin de votre Bible. Au centre de la foi chrétienne repose donc la vérité que Dieu nous pardonne et nous accepte. Non pas parce que nous avons accompli de bonnes œuvres, mais pour nous rendre capables et sérieux d'en accomplir. Je répète, mais pour nous rendre capables et sérieux et surtout désireux d'en accomplir. Alors la Sainte Bible déclare que Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, selon 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Les bonnes œuvres ne sont pas le fondement de notre acceptation, mais ce sont les fruits. Jésus-Christ, il n'a pas souffert et n'est pas mort parce que nous lui avons présenté des bonnes œuvres, mais afin de se faire un peuple zélé et motivé pour les bonnes œuvres. Je répète, il nous a vraiment aidés par ses souffrances et il est mort parce que nous lui avons présenté des bonnes œuvres, surtout pas. Non, mais surtout afin de se faire un peuple qui est zélé et qui est motivé pour les bonnes œuvres. C'est pas pareil. Notez Tite, chapitre 2, verset 14. On avait déjà mentionné au début. Tel est donc le sens de la grâce. Nous ne pouvons pas nous prévaloir devant Dieu d'une justice acquise par nos propres œuvres. Elle doit être un don gratuit. Nous ne pouvons la recevoir que par la foi, l'estimant comme étant un cadeau d'une valeur infinie. C'est pourquoi la Sainte Bible, elle déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Jésus-Christ a souffert et il est mort, afin que nos bonnes œuvres soient la conséquence, et non pas la condition de notre acceptation. Il n'est donc pas étonnant que l'apôtre déclare aussi, après, dans Éphésiens, je crois, oui, Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Nous sommes créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Nous sommes donc sauvés pour accomplir de bonnes œuvres et non pas par les bonnes œuvres. Et le but de Jésus-Christ, il n'est pas seulement de nous rendre capables, mais surtout de nous rendre passionnés de les accomplir. C'est pourquoi la Sainte Bible emploie l'adjectif « zélé ». Jésus-Christ fait de nous des chrétiens zélés et motivés pour les bonnes œuvres. Le zèle, cela sous-entend la passion, être passionné. Jésus-Christ n'est pas mort simplement pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres, ni même pour que nous les accomplissions avec un peu d'entrain peut-être, mais il est mort pour produire en nous une passion véritable pour les bonnes œuvres, une véritable passion pour les bonnes œuvres. La pureté chrétienne ne se résume donc pas à éviter le mal, mais elle est une recherche à faire le bien. Je répète, la pureté chrétienne, cela ne se résume pas à éviter simplement le mal, ce qui est déjà pas mal de pouvoir l'éviter, mais surtout, elle est une recherche à faire le bien. Plusieurs raisons expliquent pourquoi Jésus accepta de payer un prix aussi élevé pour faire naître en nous une telle passion pour les bonnes œuvres. Il en indique la principale dans ses paroles qui disent, de Saint Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » J'ai dit Saint Matthieu chapitre 5, verset 16. Les bonnes œuvres du chrétien reflète donc la gloire de Dieu. Et c'est pour cette gloire que Jésus a souffert et qu'il est mort. En nous pardonnant et en nous acceptant, Dieu, notre Papa, nous a affranchis de la peur, il nous a affranchis de l'orgueil et de la cupidité, et il nous a remplis d'un zèle pour aimer autrui, pour aimer les autres, comme nous l'avons été. Nous risquons donc nos biens et notre vie, puisque notre sécurité est uniquement en Jésus-Christ. Lorsque nous aimons les autres de cette façon-là, nous adoptons un comportement contraire à celui de l'individu qui cherche à se mettre uniquement en valeur lui-même et à se préserver. Nous attirons ainsi l'attention sur le trésor et sur la sécurité qui transforme notre vie, c'est-à-dire Dieu. Quelles sont, chers amis, ces bonnes œuvres ? Sans vouloir en limiter l'étendue, la Sainte Bible pense principalement au secours qu'il faut porter à tous ceux qui sont dans le besoin, en particulier les démunis et les affligés. Et il y en a de plus en plus de nos jours. Et ça ne va pas s'arrêter. Le pire est à venir. Elle déclare par exemple, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Tite, chapitre 3, verset 16. Mais, vous l'avez compris, cela ne veut pas dire qu'il faut faire comme une personne un peu simple ou simplet qui a donné tout ce qu'elle avait, elle avait juste quelques 3 000 francs, ou si vous voulez, quelques 3 000 euros de côté, eh bien, elle a tout donné, en pensant qu'il fallait tout donner. Mais le Seigneur ne nous demande pas de tout donner pour après être nous-mêmes dans des difficultés graves. Il faut donc de la sagesse, et le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Bien sûr que si vous possédez 50 000 euros, je pense que vous pouvez donner la moindre des choses, il me semble. Donc Jésus-Christ est mort pour faire de nous des chrétiens passionnés pour voler au secours des pauvres et de ceux qui périssent. C'est donc là la plus belle vie que nous puissions mener, quoi que cela puisse nous en coûter en ce monde. Les malheureux obtiennent le secours et nous obtenons la joie. Et Dieu, il obtient la gloire. Alléluia! Je répète, les malheureux vont obtenir du secours, nous, on obtient de la joie, et Dieu, il obtient la gloire. La 37e raison pourquoi Jésus devait mourir, Jésus doit mourir pour nous appeler à suivre son exemple d'humilité et d'amour sacrificiel. Notez la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19 à 21. Il est dit, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi, il a souffert pour vous. Il vous laisse un exemple, afin que vous puissiez suivre ses traces. Mes chers amis, considérez en effet celui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux, chapitre 12, versets 3 et 4. Il est vrai que de nos jours, avec tout ce qu'il y a autour de nous, il y a une lutte intense, où nous devons, chacun de nous, résister et encore résister afin de ne pas sombrer, mais pour être vainqueur. Notez s'il vous plaît Philippiens chapitre 2 verset 5 à 8, où il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, j'ai dit, chapitre 2, versets 5 à 8. L'imitation ne procure pas le salut, mais le salut, cela produit l'imitation. Donc, imiter Jésus-Christ, oui, mais c'est le salut qui lui permet l'imitation. Jésus-Christ ne nous est pas d'abord proposé en modèle, mais surtout en sauveur. Dans l'expérience du croyant, le pardon de Jésus-Christ vient en premier, ensuite vient son exemple. Dans l'expérience de Jésus-Christ, les deux se sont produits simultanément, c'est-à-dire la souffrance qui pardonne nos péchés, constitue notre exemple de l'amour de Jésus. En fait, c'est seulement quand nous faisons l'expérience du pardon de Jésus-Christ qu'il peut devenir notre modèle. Personne d'autre que le Fils de Dieu n'a pu souffrir pour nous. Jésus a porté nos péchés comme personne n'aurait pu le faire. Il a souffert à notre place, à ma place. Il n'y aura jamais de reproduction de la passion de Jésus-Christ. Il a souffert une fois pour toutes. Alléluia. Lui, le juste, pour des injustes que nous étions. Donc, la souffrance du divin substitut pour les pécheurs, elle est inimitable. Mais cette souffrance unique, qui est la source de pardon et de justification du pécheur, le transforme ensuite pour agir comme Jésus, non en pardonnant comme lui, bien entendu, mais en imitant son amour, en souffrant comme lui pour le bien d'autrui. Comme lui, en ne rendant pas le mal, jamais. En ne rendant pas le mal pour le mal. Comme lui, par l'humilité, de la douceur. Je répète, comme lui, par l'humilité de la douceur. Comme lui également, par une patience à toute épreuve. Et encore comme lui, par son esprit de service. En effet, Jésus a souffert pour nous de façon absolument unique pour que nous souffrions avec lui par amour. L'apôtre Paul, il dit de Jésus-Christ, il indique que son abilition, ou plutôt son ambition, était d'abord de bénéficier de la justice de Jésus-Christ par la foi. Je répète, l'apôtre Paul, l'apôtre de Jésus, il indique que il y avait de l'ambition. Alors, par son ambition, il était d'abord connu pour bénéficier de la justice de Jésus par la foi, uniquement par son ambition, vous l'avez compris, ainsi de communiquer à ses souffrances dans le ministère. Il a dit en Philippiens chapitre 3 versets 9 et 10 que je sois trouvé en lui, non avec ma justice, avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, et je connaîtrai enfin la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, à Jésus, dans sa mort. Philippiens 3, versets 9 et 10. Donc, la justification, elle précède l'imitation et elle la rend possible. Les souffrances de Jésus en vue de la justification rendent donc possible notre souffrance en vue de la proclamation. Notre souffrance pour autrui, pour les autres, cela ne supprime pas la colère de Dieu. Non, non, non. Mais elle montre combien nous attachons de valeur au fait que la souffrance de Jésus a supprimé la colère de Dieu le Père. Elle invite donc nos semblables à aller vers lui. Quand la Sainte Bible nous invite à supporter tout à cause des élus, afin que eux aussi puissent obtenir le salut qui est en Jésus-Christ, bien entendu. C'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. Elle veut donc dire que notre imitation de Jésus-Christ oriente les hommes vers celui qui seul peut les sauver. Je répète, elle veut dire que notre imitation de Jésus-Christ oriente les hommes, et j'ajoute les femmes, vers celui qui lui seul peut les sauver, peut nous sauver. Notre souffrance est donc cruciale, mais seule celle de Jésus-Christ sauve. Notre souffrance n'est pas quelque chose à ignorer, elle est cruciale. Mais il va sans dire qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi imitons son amour sans prendre sa place, comme cela peut malheureusement parfois arriver. Il y a des gens très haut placés sur le plan humain qui essayent de prendre, pas seulement ils essayent, mais ils prennent la place de Christ. Ça, c'est une erreur. La 38e raison pourquoi Jésus devait mourir, Jésus doit mourir pour créer une équipe de disciples crucifiés. Il est dit dans Saint Luc chapitre 9 verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Je répète, « Si quelqu'un veut venir après moi, votre Sauveur, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Saint Luc, chapitre 9, verset 23. Et notez encore Saint Matthieu, chapitre 10, verset 38, où il est dit que celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Je répète, Saint Matthieu 10, verset 38, que celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est donc pas automatique tout cela. Ça demande parfois des sacrifices. Jésus-Christ est mort pour former une équipe de compagnons sur le chemin du calvaire. Ce nom, c'est celui de la colline sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Jésus savait que ses pas finiraient par le conduire en ce lieu-là. Il a pris la résolution de s'y rendre, selon Saint Luc, chapitre 9, verset 51. Rien ne l'empêcherait d'aller jusqu'au bout de sa mission qui était de mourir. Il savait où et quand cela devait arriver. lorsque on l'avertit que Hérode voulait contrecarrer ses plans, il a répondu avec dédain, « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini, j'aurai terminé. » Saint-Luc, chapitre 13, verset 32. Tout s'accomplissait donc conformément à son plan. Et quand finalement la foule l'a arrêté la nuit précédant sa mort, il a déclaré, selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 56, que tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Dans un sens, le chemin du calvaire, c'est celui où chacun rencontre Jésus. Certes, le Seigneur a déjà emprunté cette route-là. Il est mort et il est ressuscité et il règne désormais dans le ciel jusqu'à son retour sur la terre. Gloire à Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est toujours sur le chemin du calvaire, c'est sur le chemin de la croix. Chaque fois qu'il y rencontre un être humain, il lui dit, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Saint Luc, chapitre 9, verset 23. Donc, en se dirigeant vers la croix, Jésus se préparait à rassembler autour de lui une immense foule de croyants. Ce n'est pas parce qu'il doit de nouveau mourir aujourd'hui, non, 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 mais parce que nous le devons. Lorsque il nous ordonne de nous charger de notre croix, eh bien, Jésus sous-entend très clairement que nous devons le suivre et éventuellement même mourir. Et oui, la croix était donc un moyen d'exécution horrible. De son temps, il serait venu à l'idée de personne, c'est ça que je voudrais dire, en son temps, il serait venu à l'idée de personne de porter, par exemple, comme il y en a aujourd'hui, une croix. Il y en a même qui en portent des imposantes comme bijoux. Il y en a en or, en argent, en bois. Mais c'est un peu comme si on portait aujourd'hui autour du cou une chaise électrique ou un gibet en miniature, pourquoi pas. Les paroles de Jésus ont dû faire frémir tous ceux qui les ont entendus quand il a dit que celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, il ou elle n'est pas digne de moi. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 38. Ces paroles ont encore de quoi de faire réfléchir. Ces paroles signifient pour le moins que si Jésus, qui lui est mon Sauveur et mon Seigneur, que lui, l'ancien moi, car mon ancien moi était autosuffisant, mon ancien moi était égoïste, et il doit donc être, bien entendu, il doit être crucifié. Je dois donc me reconnaître chaque jour comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu, mon papa. Ça, c'est le chemin de la vie. Regardez-vous comme mort au péché, nous est-il dit, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Notez bien Romains, chapitre 6, verset 11. Mais l'union sur le chemin du calvaire, elle va encore plus loin. Jésus est mort, il est mort pour nous, afin que nous acceptions de porter son opprobre. Jésus a souffert hors de la porte. Sortons donc, vous et moi, pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Hébreux, chapitre 13, versets 12 et 13. Et au-delà de l'opprobre, il y a le martyr qui est nécessaire. Voyez-vous, la Sainte Bible décrit ainsi certains des disciples de Jésus. Elle dit, selon Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. L'agneau de Dieu a donc versé son sang pour nous permettre de triompher du diable. C'est surtout ça, en comptant sur les vertus de son sang précieux et en répandant le nôtre. Jésus, il nous invite donc à le rejoindre, sur le chemin du calvaire. C'est pas évident. Il nous invite, celui d'une vie qui peut paraître difficile ou qui sera difficile, mais qui sera une vie bonne. Alors je vous dis à tous, venez et suivons ensemble Jésus-Christ. La 39e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour nous arracher à l'esclavage de la peur de la mort. Notez, s'il vous plaît, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus, a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, mais il délivre tous ceux, vous et moi, qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus qualifie donc Satan de meurtrier, ce qu'il est. Il a été le meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est le menteur et il est le père du mensonge. Notez Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Mais le but de Satan, il n'est pas avant tout de tuer carrément, mais il cherche plutôt à nous ruiner. Il préfère que ses adeptes puisse jouir d'une vie longue, souvent, et très heureuse et riche. Tout cela pour affliger les chrétiens qui, eux, souffrent et dissimulent les horreurs de l'enfer. Son pouvoir a égaré, car il cherche à nous égarer, à égarer tous les êtres humains, alors son pouvoir ne réside pas en lui-même, mais il réside dans les péchés qu'il inspire et dans les mensonges qu'il propage. Le péché qui n'est pas pardonné, et ce péché est la seule chose qui condamne l'homme. Le sort, les enchantements, le voodoo, l'occultisme, j'ai dit de jeter des sorts, les enchantements, le voodoo, l'occultisme, les malédictions, la magie noire, les apparitions, entendre des voix, rien de tout cela a le pouvoir d'envoyer un véritable chrétien né de nouveau en enfer. Sa seule arme mortelle à Satan, c'est son pouvoir à nous tromper. Son mensonge majeur, il consiste à nous faire croire que l'exaltation de soi-même, de nous-mêmes, est beaucoup préférable à celle de Jésus-Christ, et que le péché vaut beaucoup mieux que la justice. Si on pouvait lui arracher cette arme-là, il ne détiendrait plus le pouvoir de l'amour éternel. Ça viendra bientôt. C'est ce que Jésus-Christ est venu pour accomplir, c'est de ôter cette arme des mains de Satan. Et pour ce faire, Jésus a pris tout d'abord nos péchés, ton péché, mon péché sur lui, et il a souffert à cause de nos péchés. Le diable ne peut donc plus les utiliser contre nous. Il ne peut plus nous railler. Il ne peut plus nous faire peur. Oui, il ne peut plus se moquer de nous. Oui, évidemment, il peut encore nous condamner. Croyez-vous ça? Il y en a qui le croient. Eh bien non. Non, non, non. Il ne peut plus te condamner. Car Christ, il a subi la malédiction à ta place. Satan a beau tout essayer, il ne peut plus nous détruire. Oh, il essaye. Et la colère de Dieu, elle est ainsi assouvie. Sa grâce, c'est elle qui est notre bouclier. Et ainsi Satan ne peut plus triompher de nous. C'est terminé. Pour opérer cette délivrance-là, Jésus-Christ a dû revêtir la nature humaine. En effet, sans elle, il n'aurait pas pu faire l'expérience de la mort. Or, seule la mort du Fils de Dieu pouvait détruire celui, oui, celui, vous savez qui tenait le pouvoir de la mort. Et c'est pourquoi la Sainte Bible déclare, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisqu'ils possèdent une nature humaine, il y a également participé lui-même, Jésus, et il a revêtu une nature humaine. Pourquoi ? Pour que par la mort, par sa mort, il rende totalement impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Lorsque Jésus-Christ est mort pour les péchés, il a arraché des mains du diable sa seule arme mortelle, c'est le péché qui n'était pas pardonné. Et en agissant ainsi, Jésus-Christ a cherché à nous libérer de la crainte. En mourant à la croix, sur la croix, il a délivré tous ceux, toi et moi, qui par crainte de la mort, nous étions toute notre vie retenus dans la servitude, selon Hébreux chapitre 2, verset 15. La peur de mourir asservie, elle nous intimide et elle nous paralyse. Mais Jésus est mort pour nous affranchir totalement. Jésus est mort pour nous affranchir de la mort. Et une fois la peur de la mort détruite, et cela par un acte d'amour, un acte de sacrifice personnel, eh bien l'asservissement à la fière et monotone préservation de soi, cette fierté-là, elle est maintenant brisée. Nous sommes donc maintenant libres, totalement libres, d'aimer comme Jésus-Christ a aimé, même au prix de notre vie, si il nous le demande. Le diable peut tuer notre corps, c'est vrai, mais il ne peut plus faire périr notre âme, car celle-ci est en sécurité en Jésus-Christ. Et même notre corps mortel, il ressuscitera un jour. Il est dit que celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie, il la rendra à vos corps mortels par son Esprit Saint qui habite en nous. Romains chapitre 8 verset 11. Nous sommes donc les plus libres de toutes les créatures humaines. Mais la Sainte Bible indique très clairement à quoi cette liberté doit servir. Alors notez pour terminer Galates chapitre 5 verset 13. Il est dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns pour les autres, les uns des autres. Galates, chapitre 5, verset 13. Nous poursuivrons demain la suite. Ce sera, je crois, l'étude, je voudrais pas me tromper, numéro 10. Donc demain, l'étude numéro 10. Chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle, mais aussi pour vous encourager. Car aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a besoin plus que jamais d'être encouragé. Alors écoutez bien. Nous devons nous renoncer nous-mêmes et imiter Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, vous n'entrerez en moi que autant que vous sortirez de vous-même. Comme on possède en soi la paix lorsque on ne désire rien au dehors, ainsi le renoncement intérieur unit à Dieu. Le Seigneur demande que nous apprenions à nous renoncer assez parfaitement pour nous soumettre à sa volonté, sans répugnance et sans murmure. Suivez-moi, dit le Seigneur, car je suis la voie, je suis la vérité et je suis la vie. Sans la voie, on n'avance pas. Sans la vérité, on ne connaît pas. On ne vit point sans la vie. Je suis la voie que vous devez suivre. Je suis la vérité que vous devez croire et la vie que vous devez espérer. Je suis la voie qui n'égare surtout jamais. Je répète, je suis la voie, dit le Seigneur, qui n'égare jamais. Je suis la vérité qui ne trompe jamais. Et je suis la vie qui ne finira jamais. Je suis donc la voie droite, je suis la vérité souveraine, je suis la véritable vie, oui, la vie bienheureuse et la vie incréée. Si vous demeurez dans ma voie, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera et vous obtiendrez la vie éternelle. Si vous voulez parvenir à la vie, eh bien, gardez mes commandements. Si vous voulez connaître la vérité, croyez en moi. Si vous voulez être parfait, eh bien, vendez tout ce qui est du superflu. Si vous voulez être mon disciple, renoncez-vous à vous-même. Si vous voulez posséder la vie bienheureuse, méprisez cette vie présente. Si vous voulez être élevé dans le ciel, humiliez-vous sur la terre. Si vous voulez régner avec moi, oubliez tout orgueil, car les serviteurs de la croix trouvent seuls la voie de la béatitude et de la véritable lumière. Seigneur Jésus-Christ, puisque ta vie était pauvre et que le monde la méprisait, donne-moi de t'imiter et d'être aussi méprisé du monde. Car le serviteur, est-il dit, n'est pas plus grand que celui qu'il sert, ni le disciple au-dessus de son maître. Que le serviteur travaille à se former sur la vie de Jésus-Christ, parce que là est son salut, et la véritable sainteté. Tout ce que je lis, tout ce que j'entends hors de cette vie céleste, eh bien cela ne me console ni ne me satisfait pleinement. Car le Seigneur dit, puisque vous avez lu et que vous savez toutes ces choses, vous serez heureux si, pour autant, si vous les pratiquez. Celui-là même qui connaît et qui observe mes commandements, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui, et je le ferai asseoir avec moi dans le royaume de mon Père. Oui, Seigneur Jésus, qu'il soit fait selon ta parole et selon tes promesses. Rends-moi digne, digne de ce bonheur immense. Tu as offert la vie pour moi et je t'offre la mienne jusqu'à la mort. Alléluia. Certes, la vie d'un chrétien est parfois une croix, mais une croix qui conduit à la gloire. J'ai commencé, il n'est plus permis de retourner en arrière, non, 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 il n'y a plus à s'arrêter. Alors mes frères et mes sœurs, marchons ensemble. Jésus-Christ, il sera avec nous. Il sera notre soutien, il sera celui qui est notre chef et notre guide. Voilà que notre roi marche devant nous. Il combattra pour nous. Suivons donc avec courage, que rien ne nous effraie. Soyons donc prêts à mourir généreusement dans cette guerre et ne souillons pas notre gloire de la honte d'avoir fui la croix. Amen. Et maintenant, prions ensemble, s'il vous plaît. Prions. Dieu puissant, Dieu saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec une brûlante gratitude que nous songeons à la manifestation de ta grâce en l'apôtre Paul. Tu as fait resplendir ton évangile en lui, oui, le consacrant héros et ambassadeur de ton Fils. Nous confessons avec tristesse avoir souvent méconnu ce message de délivrance et de salut et lui avoir trop souvent refusé l'accès de nos cœurs et de nos vies. Oui, pardonne-nous et qu'il retentisse à nouveau, que Jésus-Christ soit vraiment proclamé à notre peuple qui s'en est détourné, qu'il soit annoncé à l'humanité tout entière qui tâtonne sur la route qui mène à toi, qu'il soit prêché à tous ceux qui l'ignorent toujours, comme à ceux qui l'ont oublié. Nous avons besoin de toi. Nous t'implorons, parle Seigneur, à nos cœurs, par l'Esprit Saint. Oui, nous voulons t'écouter. Amen. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu, il aime tous ceux qui ont eu le courage de reconnaître qu'ils étaient perdus et qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Eh bien, Jésus, il vous aime. Et Dieu le Père vous aime. Il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse. Et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux essayer maintenant de vous mettre quelques chants de ma jeunesse que j'ai enregistré en 1960. J'espère que vous pourrez encore comprendre quelques paroles, bien que ça a perdu beaucoup de sa netteté, évidemment. Essayons.
Jamais. J'aimerais savoir pourquoi les yeux de mon enfant ressemblent tant au mien. J'aimerais savoir comment les pétales de rose s'ouvrent chaque matin. J'aimerais savoir pourquoi quand on enterre un grain, il devient un épi. Comment une chenille devient en quelques heures un papillon joli. Comment tous les grands fleuves descendent à la mer sans jamais la remplir. Comment les hirondelles, sans m'entendre ni boussole, savent qu'elles vont partir. J'aimerais savoir comment, lors des grandes marées, la mer est déchaînée. Comment ces tonnes d'eau, comme un vêtu de paille, sont alors soulevées. Je sais seulement que Dieu est grand. Pourquoi mon corps qui est si jeune vieillira lentement. J'aimerais bien savoir quel est le mécanisme de l'horloge du temps. Pourquoi la vie est née sur la petite terre au fond de l'univers. Au milieu des étoiles, elle n'est pas plus grosse qu'un simple grain de poussière. Je ne sais pas pourquoi quand le vent souffle fort, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas comment se formera la glace qui frappe sous mes pas. La route des nuages est toujours bien tracée pour déverser la pluie. Sans aucune distinction sur les bons, les méchants, toujours le soleil, lui. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Dieu est grand. Je sais seulement que Dieu est grand. Grand.